France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de spécialistes de la littérature d'Europe et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans les romans qui ont changé le monde en 1969. Année de la publication aux États-Unis du roman « La main gauche de la nuit » d'Ursula Le Guin ou Le Guin, « The Left Hand of Darkness » qui sera publié pour la première fois en France 2 ans plus tard dans une traduction de Jean Bayache aux éditions Robert Laffont. Chef-d'œuvre du genre qu'on a coutume d'appeler science-fiction, mais surtout chef-d'œuvre tout court, « La main gauche de la nuit » et l'ensemble du travail immense d'Ursula Le Guin ont conquis de plus en plus de lectrices et de lecteurs au fil des années. Ursula Le Guin a quitté la planète Terre en 2018 à l'âge de 88 ans, sans recevoir le prix Nobel qu'elle méritait tant. Pour l'évoquer, et surtout La main gauche de la nuit, sans doute son texte le plus célèbre, nous avons réuni 3 spécialistes de Le Guin et de science-fiction, dont 2 ont participé à la nouvelle édition de La main gauche de la nuit, parue aux éditions Robert Laffont. Tout d'abord Catherine Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et informaticienne. Votre dernier recueil de nouvelles, L'arithmétique terrible de la misère, est paru tout d'abord aux éditions du Bélial, puis au livre de poche en 2022. Votre précédent roman, lui aussi disponible au livre de poche, Danse avec les lutins, vous avez valu le prix des Imaginales et le prix Bob Morane. Nous vous devons la préface à la nouvelle édition de La main gauche de la nuit. Bonjour Stéphanie Nico.
Bonjour.
Vous êtes autrice et essayiste. Vous avez signé de très nombreuses anthologies de textes des littératures de l'imaginaire, dont vous êtes spécialiste, qu'il s'agisse de SF ou de fantasy. Vous avez assuré pendant 20 ans la direction du Festival des Imaginales d'Épinal. Vous êtes aujourd'hui conseillère littéraire pour le Festival de Rennes. Vous êtes aussi une activiste en faveur des droits des personnes transgenres et l'autrice à 4 mains avec Alexandra Hoogst-Merel de l'essai « Changer de sexe, identité transsexuelle » préfacé par Martin Winkler. Et enfin, bonjour Fabrice Collin.
Bonjour.
Vous êtes aussi entre autres un auteur de science-fiction et de fantasy, auteur de romans tant pour adultes que pour adolescents ou pour la jeunesse. Vous avez été 4 fois lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. Vous avez publié à la rentrée 2022 le très nostalgique roman Golden Age dans la collection Hachette Heroes. Retour à une fantasy de fin du monde dans un roman déchiré entre réalisme et onirisme. Mais pour commencer, et pour avancer un peu dans les territoires d'Ursula Le Guin et La main gauche de la nuit, nous allons entendre un premier extrait du texte, lu par la comédienne Élodie Hubert, traduit de l'anglais par Jean Bayache, traduction révisée par Sébastien Guillot.
Bien qu'étant sur cette planète depuis presque 2 ans, je ne parvenais toujours pas à voir ses habitants comme à travers leurs propres yeux. Je m'y efforçais, mais sans réussir à autre chose qu'à voir en chaque habitant d'abord un homme, ensuite une femme, le forçant ainsi à intégrer l'une ou l'autre de ces catégories si étrangères à sa nature et si essentielles à la mienne. Aussi songeais-je, tout en buvant à petite gorgée mon aigre bière chaude, qu'Estraven avait joué un rôle typiquement féminin à table. Charme, tact, manque de substance, superficialité, finasserie. Peut-être étaient-ce ces caractéristiques toutes féminines qui m'inspiraient méfiance et antipathie, car il m'était impossible de voir une femme dans cette sombre présence ironique, puissante, qui me faisait présentement face, faiblement éclairée par la lueur du feu. Et pourtant, si je le considérais comme un homme, je sentais m'envahir une impression d'artificialité, d'imposture. Mais en était-il le responsable, ou fallait-il imputer cela à mon attitude à son égard? Sa voix était douce et sonore, mais sans profondeur. Pas vraiment une voix masculine, mais pas non plus une voix de femme. Et que disait-elle ? Je regrette, expliquait-il, d'avoir dû si longuement différer le plaisir de vous recevoir. Cela dit, je me réjouis que nos rapports ne soient plus du tout ceux d'un protecteur et de son protégé.
Nous venons d'entendre un extrait de La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin ou Le Guin ou Le Guin, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est notre première question peut-être pour vous, Catherine Dufour. Comment est-ce qu'on prononce le nom d'Ursula Le Guin ?
Alors là, les débats sont ouvert, donc vous avez le choix entre Le Guin. Quand vous allez en librairie, souvent on dit du Le Guin. Il paraît qu'elle souhaitait qu'on prononce ça Le Guin. Donc, choose.
Make up your mind.
Il faut dire que ce nom est tout à fait breton, puisqu'elle avait épousé un Français, c'est ça, Stéphanie Nico?
Oui, oui, enfin, en tout cas, elle avait des origines bretonnes par alliance. Donc, voilà, on peut la revendiquer quand on est amateur d'imaginaire et bretonne.
Et Fabrice Collin, est-ce que vous vous souvenez du première fois que vous avez prononcé ce nom?
Je suis resté longtemps sans le prononcer parce que je suis resté longtemps à lire seul le livre, enfin les livres d'Ursula qui étaient pris en bibliothèque à une époque, à un âge vers 15-16 ans où j'avais pas grand monde avec qui en parler dans mon entourage. Donc je lisais, je prononçais pas.
Catherine Dufour, est-ce que pour vous aussi ça a été une lecture importante de l'adolescence aussi, La main gauche de la nuit?
Oui, mais je m'en rendais pas compte parce que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu Catherine Moore, j'ai lu Ursula Le Guin, j'ai lu Johanna Russ, j'ai lu Lee Brackett. Et c'est que, je sais pas, 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que j'avais lu massivement des femmes écrivant de la science-fiction. J'ai pas fait exprès du tout.
Stéphanie Nico, vous vous souvenez de votre première lecture de La main gauche de la nuit?
Oui, il y a très longtemps. C'est un des rares romans que j'ai relu 3 fois dans ma vie avec Ursenar. Donc ça situe aussi toute l'admiration et l'affection que je porte à l'autrice Ursula Le Guin. Oui, ça a été un choc parce que c'est des choses dont on parlait pas ou très peu à l'époque. Les questions de genre, c'était pas du tout abordé. Judith Butler, elle écrirait son célèbre essai 20 ans plus tard. Donc oui, on avait certes Simone de Beauvoir pour réfléchir aux questions qu'elle pose, mais encore une fois, on réfléchit aux questions de genre, mais avec Ursula Le Guin, on lit surtout des magnifiques romans.
Oui, on est surtout dans un genre qui, au moment où le roman paraît, donc en 1969, on a l'impression que c'est justement peut-être parce que c'est possible dans la science-fiction, en dehors justement du canon littéraire, d'aborder tous ces thèmes sur lesquels on va revenir, le gender fluide, la question des différents racismes, ségrégations diverses et variées, de façon extrêmement subtile, la politique aussi bien évidemment, mais dans un univers qui est parallèle et qui donc permet, puisque il s'agit de romans justement de l'imaginaire, de développer ces thèmes-là. Catherine Dufour.
Oui, c'est vraiment tout le rôle, enfin un des rôles de la science-fiction, c'est de décaler légèrement le réel, le point de vue, pour que la réalité de notre société nous saute à la face. Hein. C'est ce que fait Le Guin quand elle dit notre vision du genre binaire est tellement ancrée en nous que la première question qu'on pose quand quelqu'un attend un enfant, c'est garçon ou fille. Moi, j'avais jamais réfléchi et elle a totalement raison. Donc c'est toute la puissance de la science-fiction de se décaler un peu pour nous faire voir ce que nous sommes réellement. C'est vraiment le fameux « comment peut-on être persan ?»
Alors, situons un peu le roman pour les auditrices et les auditeurs. Nous arrivons déjà à la première personne, nous venons d'entendre, c'est un envoyé qui s'appelle Genly Ai. Là aussi, on ne sait pas trop comment il faut prononcer, si c'est Genly Ai. Genly Ai, qui nous raconte cette histoire et qui commence à la première personne avec cette affirmation absolument extraordinaire qui est « La vérité est affaire d'imagination » et qui dit que pour le rendre plus intéressant, éligible, il va faire de son rapport, donc on sait que c'est un rapport d'exploration en réalité, de communication, de son séjour dans une planète lointaine, à la première personne et d'une façon romancée. Et on va découvrir petit à petit pour quelles raisons est-ce qu'il est là d'abord, cet envoyé du centre de l'Ocumène, qui est la fédération planétaire qu'il emploie, et puis petit à petit ce qu'est cette planète Gethen ou Gethen,
Gethen
qu'on va appeler Nivose aussi, qui sont la traduction de son nom, et qui est une planète complexe composée de plusieurs royaumes et de plusieurs modes de vie, on va dire. Est-ce que j'ai bien résumé l'histoire, Fabrice Collin?
Elle est difficile à résumer en vérité, cette histoire, parce que elle est d'une grande densité, hein, malgré la taille relativement modeste de l'ouvrage. Il faut quand même préciser, enfin, que cette ouverture, elle est très importante parce qu'elle pose déjà un petit peu les bases du système du livre, qui est narré pas seulement par Genly Ai, mais aussi par d'autres personnes. On va entendre d'autres voix dans le livre, et il y a cette affirmation comme quoi la fiction est inséparable en fait de la réalité, qu'on ne peut pas développer un point de vue qui engloberait tout et qui soit omniscient. Donc ça, le narrateur nous le dit, et puis Ursula nous le dit aussi en ajoutant des couches de récit au récit principal, ce qui fait que l'enrichir, mais ce qui en souligne aussi la complexité. Et puis il y a cette question de du point de vue de l'objectivité, de la subjectivité, de comment ce récit va pouvoir se déployer dans toute sa finesse et sa complexité.
Catherine Dufour, ce récit d'exploration qui est aussi la main gauche de la nuit, de rencontre en tout cas.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec Fabrice. C'est extrêmement dense et surtout le diable est dans les détails. C'est extrêmement intéressant parce que Ursula K. Le Guin place... Alors justement, j'ai pas envie de dire qu'elle se débrouille pour placer des thèses parce que justement, c'est très finement amené. Elle a un certain nombre d'idées et elle les met en scène. Elle se dit, et s'il n'y avait pas de binarité, qu'est-ce que ça ferait? Et elle place cette supposition dans un champ social et elle en explore toutes les possibilités. Et ça aussi, pour moi, c'est le rôle de la science-fiction. C'est de promener, on va dire, des théories soit scientifiques, soit sociologiques. C'est le cas de Le Guin, qui était une sociologue, une anthropologue. On les projette comme une lanterne magique sur le champ social pour voir l'effet que ça fait. Donc résumer le livre, enfin bon, l'histoire en elle-même, oui, c'est un grand échalas qui se promène sur une planète gelée où il trouve d'ailleurs que c'est parfaitement inconfortable et il a super envie d'être ailleurs. Et à la fin, il s'en sort, mais il n'est pas content quand même. Donc le résumé n'a pas d'intérêt en soi. Ce qui est intéressant, c'est cette impression, les grands maîtres de la science-fiction ou les grandes maîtresses de la science-fiction comme Le Guin, c'est ça qu'ils arrivent à faire. Vous avez l'impression d'être ailleurs et vous avez l'impression de découvrir une psyché qui fonctionne autrement que la nôtre. Ce qui est à peu près aussi simple que de soulever la chaise sur laquelle on est assis. C'est ça la grande force de Le Guin et qui fait d'elle une maîtresse de la science-fiction.
Et est-ce que c'est justement parce qu'elle est anthropologue qu'elle sait si bien peut-être faire preuve de cette empathie qui lui permet de se mettre à la place d'autres êtres, même s'ils sont entièrement imaginaires?
Oh, mais c'est surtout sa famille, parce que son père, c'est vraiment lui qui est l'anthropologue. Elle est un peu plutôt amatrice, mais elle est passionnée, elle est irriguée par ça. Et puis, elle aborde des questions de société, mais pas comme quelqu'un qui discourt ou qui fait du militantisme. J'ai rien contre, mais c'est pas le sujet d'Ursula Le Guin. Elle pose, c'est une expérience de réalité, elle pose une réalité alternative, comme le disait très bien Catherine Dufour, et elle présente surtout des personnages extrêmement forts. Ça, c'est une des grandes forces d'Ursula Le Guin par rapport à toute une série d'écrivains masculins qui, dans la génération d'avant, souvent avaient des personnages qui étaient de carton-pâte. Faut bien le reconnaître, les histoires étaient passionnantes, les scénarios étaient passionnants. Mais Asimov, on peut pas dire que ses personnages, par exemple, étaient passionnants. Je prends un exemple d'auteur important. Elle, oui. Et Jane Lee Hye est un personnage extraordinaire parce que quand il parle au début, il a fait tout le parcours. Il va parler de cette histoire. Il a déjà changé. Mais ça, les premières phrases, on ne devine pas. Et c'est un personnage pas du tout sympathique au début du roman. C'est un abominable machiste, pour tout dire, rempli de préjugés, et l'expérience va le bouleverser. D'ailleurs, c'est ce que dit un autre personnage que je ne citerai pas pour laisser la surprise au lecteur. Sur cette planète, ils ne voient leurs semblables ni des hommes ni des femmes. Sur Nivose, c'est uniquement comme être humain qu'on est respecté et jugé. C'est une expérience bouleversante, dit un autre personnage. Et Genia, lui, évidemment, il vient de la Terre, d'une société de l'époque sexiste. Et quand il voit cette société où il n'a pas de point de repère masculin-féminin, il est complètement paniqué.
Parce que ce qu'il faut préciser, justement, c'est peut-être la particularité de cette planète, c'est que ses habitants sont... pendant les deux tiers du mois, dans cette période qu'ils appellent le soma, c'est-à-dire où ils sont indifférenciés sur le plan du genre, et ont une période qui s'appelle kema, pendant laquelle ils vont devenir sexués, mais indifféremment, d'une façon plus ou moins aléatoire, homme ou femme, pendant donc plus ou moins une semaine ou 10 jours. Et c'est cette particularité-là qui choque, bien évidemment, au moment où il arrive, le bon Gently Eye. Et Fabrice Collin.
Ouais, alors, non seulement ça le choque, mais ça le déconcerte et ça l'ennuie beaucoup parce qu'il sait pas comment se positionner. Et à cet égard-là.
C'est très drôle, ça, d'ailleurs.
Alors, c'est drôle et puis c'est très intéressant parce que Gently Eye, c'est le lecteur, finalement. C'est-à-dire qu'il débarque en science-fiction, il débarque sur une planète dont on va nous exposer peu à peu les usages et la, donc la particularité des habitants que vous avez dites. Mais lui, on l'a entendu dans le passage qui a été lu, il sait pas comment se positionner par rapport à ça. Il aimerait bien savoir s'il a en face de lui un homme ou une femme. Tous les deux, ils prêtent à ces deux sexes des caractéristiques qui sont tout à fait de son époque et puis de sa planète natale, on va dire. Et comme le souligne Stéphanie, c'est il y a une épopée, évidemment, on va pas tout raconter, mais il y a une épopée physique, il y a un voyage, hein, comme le disait aussi Catherine, mais il y a surtout un voyage personnel, il y a une quelque chose de l'ordre de la révélation qui va s'imposer à lui de la manière forte, j'allais dire, parce que c'est quelque chose qu'il va expérimenter lui-même presque dans sa chair, quoi.
Et là, il y a une idée de fonctionnement du corps qui est assez magnifique, justement. Ça, enfin, quand on termine le livre, ça fait un peu rêver, cette possibilité qu'ont les habitants de Nivos d'entrer dans une espèce de neutralité. Alors, on va voir toutes les conséquences que ça a, qui sont assez magnifiques, qui font plutôt rêver, même si le monde n'est pas du tout parfait pour autant. Hein. On va voir qu'il y a quand même aussi de la violence, énormément de choses. Néanmoins, le fait qu'on ait la possibilité pendant une semaine d'être parfois un homme et parfois une femme, remet quand même les choses à plat sur bien des plans. Catherine Dufaux.
Oui, ça remet les choses à plat et c'est ce qui choque Jane Lyai. Alors d'un autre côté, il faut voir que Jane Lyai, alors c'est effectivement un héros extrêmement misogyne, comme le dit très bien Stéphanie, mais c'est surtout quelqu'un d'épouvantablement géniard, enfin c'est insupportable. Et surtout, il a une caractéristique, deuxième énorme spoiler, qu'on apprend qu'au bout de 300 pages, c'est qu'il est
noir.
Et ça, c'est Le Guin, elle l'a très bien dit. Elle a dit, j'ai fait exprès. Vous prenez un personnage, vous dites pas sa couleur de peau. Vous attendez 300 pages que les gens soient bien identifiés. Et là, paf, vous balancez qu'il est noir. Ce qui était vraiment prendre à rebrousse-poil ses lecteurs qui étaient majoritairement des Américains blancs qui n'étaient pas forcément plus ouverts sur les questions de couleur que sur les questions de genre.
Et Stéphanie Nicot, on a même l'impression, enfin, on sait que Ursula Le Guin, bon, qu'en 1969, c'est vraiment l'époque de la contre-culture. Presque, c'est un roman politique, même s'il est dans un genre peut-être éloigné du mainstream politique.
C'est un roman des mouvements féministes. Ce roman n'aurait pas existé, en tout cas tel qu'il est, sans tous les mouvements féministes américains de l'époque et le mouvement de la contre-culture. Elle s'inscrit, elle est plus ou moins, alors anarchiste, je dirais plutôt libertaire, pour la situer. Elle vote démocrate clairement, elle serait dans la gauche du Parti démocrate pour bien la situer, mais c'est quelqu'un qui, dans ses livres, surtout interpelle en effet ses lecteurs. Et Catherine a parfaitement raison d'insister sur le fait que, à l'époque où les mouvements viennent juste un peu de se conclure, hein, tous ces mouvements de lutte autour de Martin Luther King et tout viennent de déboucher, mais ça a été sanglant, violent, etc. Ça a imprégné la société américaine et le fait de glisser que son personnage est noir, c'est pas un sujet d'ailleurs, ça n'est pas un sujet du livre, simplement c'est une information et évidemment, ça bouscule, comme elle le dit très justement, son lecteur et le personnage qu'on aurait pu donc à rebours dire, bah oui, mais il est par contre très sexiste comme beaucoup d'hommes, mais finalement, les Noirs sont des hommes comme les autres.
On va écouter Ursula Le Guin nous parler elle-même de littérature en 1975.
Une chose à propos de ce qu'est la science-fiction, c'est très largement masculin. Mais il semble qu'elle tende chaque fois un peu plus vers l'androgynie, en tout cas je l'espère. Et quoi d'autre ? Eh bien, Theodore Sturgeon remarquait que la science-fiction c'était aussi à 95% de la merde. Comme tout le reste, d'ailleurs. Je suppose que vous connaissez la loi de Sturgeon. Je veux remettre en question cette loi de Sturgeon. Est-ce que 95% de tout est vraiment du déchet ? Est-ce que 95% d'une forêt, ce sont des détritus ? Est-ce que 95% de l'océan, ce sont des déchets ? Ce sera le cas si nous continuons à le polluer. Mais est-ce que 95% de l'humanité est à mettre au rebut ? Un dictateur serait d'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que 95% de la littérature, c'est de la merde ? Eh bien, oui.
Nous venons d'entendre Ursula Le Guin en 1975 à Melbourne, en Australie. On entend son ironie et son humour. Tout d'abord, ce constat que la SF est très masculine. Donc en fait, elle a bien conscience que quand elle écrit aussi pour des hommes. Et c'est peut-être ça aussi qui permet de lire en tout cas La main gauche de la nuit aussi d'une autre façon. C'est peut-être un roman, alors même si évidemment il a été lu par la suite par tout le monde, mais en tout cas qui s'écrit dans cette situation-là, dans un moment où la science-fiction, c'est quelque chose de très masculin, Trine Dufour.
Oui, et d'ailleurs, dans ses premiers écrits, écrits avant le monde de Rocanon, enfin publiés avant le monde de Rocanon, donc en 66, elle signait K. Le Guin. Et elle était vraiment pas la seule femme à soit prendre un prénom dégenré comme Lee, ou soit prendre, citer juste des initiales pour que, sans le dire tout en le disant, on la confonde avec un homme.
Parce que là, est-ce que vous vous rendiez compte, au moment où vous lisiez justement Ursula Le Guin à l'adolescence, que la science-fiction avait ce côté finalement extrêmement masculin qui tendait peut-être à commencer à aller vers l'androgyne?
Pas vraiment, pour être honnête. C'était les années 90. Moi, j'étais assez éloigné de ces questions-là. J'étais captivé par le sense of wonder. Et pour moi, je pense un petit peu comme pour Catherine dans l'expérience de lecture qu'elle décrit, c'est on est d'abord happé et émerveillé par la description du monde. L'ambiguïté, évidemment, elle était là et je me suis dit, tiens, c'est un truc étrange et nouveau et que j'ai jamais lu, mais la dimension politique, elle m'est apparue, évidemment, bien après. Il faut quand même souligner que, enfin, je crois hein, que Ursula Le Guin est pas s'inscrit pas dans une tradition de littérature de science-fiction prédictive. Hein. C'est pas son propos. Je pense qu'elle a d'abord envie de montrer le monde tel qu'il est actuellement, et elle fait presque des expériences d'anthropologie sur son lecteur. Là, en l'occurrence, c'est comme si elle l'enlevait. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Hein, d'ailleurs, elle enlève le genre du livre et puis elle voit ce qui reste, quoi. Et elle voit ce que ça fait sur le lecteur, et donc c'est un des rares ouvrages littéraires, à ma connaissance, qui attaque de façon aussi frontale les présupposés, presque la culture, notamment du lecteur homme. Ça vient le chercher dans ses fondements, ça l'interroge, ça le bouscule, on peut dire d'une certaine façon, ça le déconstruit.
Stéphanie Nico.
Oui, ça, je suis totalement d'accord avec ce que dit Escolin. Le déconstruit, c'est un terme qui est à la mode aujourd'hui, qui est parfois critiqué, parfois repris, mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Y compris quand elle raconte à Melbourne ce qu'on a entendu tout à l'heure, quand elle a certaines formules sur la science-fiction, avec ses héroïnes qui couinaient, etc. Enfin, elle montre quelle caricature sur le plan du genre ça pouvait être. Ursula Le Guin a beaucoup d'ironie, on l'a dit tout à l'heure, elle a de l'humour. C'est-à-dire qu'elle fait passer les choses qui pourraient apparaître comme très brutales par l'ironie que d'ailleurs le lecteur ne perçoit pas toujours. C'est parfois intéressant de relire le livre, soit quelques années après, soit quelques semaines après, parce que la première lecture, y compris ça m'est arrivé, il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne perçoit pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses. C'est très facile à lire et pourtant, c'est plein de richesses.
Catherine Dufour, on a l'impression dans La main gauche de la nuit, en tout cas dans cette description de cette planète Nivose, que l'aspect technologique de la science-fiction, en tout cas dans ce livre-là, n'est pas du tout ce qui intéresse Ursula Le Guin, ce qui ne sera pas le cas, pas forcément le cas dans d'autres ouvrages.
Non, de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Elle a fait des études d'ethnologie qu'elle a complétées par une thèse sur Ronsard, donc elle, c'est ethnologie et littérature. Donc, elle a, à mon avis, c'est vraiment pas son propos. Mais ce qui est aussi très intéressant quand on lit effectivement Le Guin, en tout cas ce livre-là, c'est que ça renvoie en creux l'image que on avait de la femme aux États-Unis dans les années 60-70. Et permettez-moi de vous dire que du coup, ça fait plaisir de vivre à notre époque parce qu'on se dit qu'on a vraiment progressé. Parce que quand son héros décrit le roi local, hein, il s'appelle Argaven, c'est le roi de Caraïbes, qui en climat devient femme, a une relation sexuelle, tombe enceinte, donc ça fait un roi enceint. Et visiblement, du coup, il peut plus être roi parce qu'il est cloué par une grossesse et qu'on sait bien qu'une bonne femme qui a une grossesse, elle est plus capable de faire autre chose que je ne sais pas. Elle doit avoir l'utérus qui lui monte dans le chignon. Et donc, ça dessine ce qu'on pensait des femmes enceintes à l'époque aux États-Unis. Et en permanence, il y a ces manifestations. Les femmes sont, voilà, ça a été dit, elles sont pleines de finasseries, elles n'ont aucune profondeur. Et ça décrit une vision de la femme qui est absolument épouvantable et qui devait correspondre à ce que cette pauvre Le Guin a subi dans son pays à son époque.
Et c'est aussi pour ça que ce schéma est absolument passionnant, c'est parce que ça exacerbe aussi les caractères de chacun des deux sexes, Fabrice Collin.
Oui, alors il y a effectivement les caractéristiques des sexes, puis il y a le fait de pouvoir tomber enceinte ou enceint. Et ce que ça dit sur les terriens, qui est quand même voilà la culture de Jeanne Lehaye, c'est que quand vous êtes une femme sur Terre et que vous êtes enceinte, bon, bah, comme le dit Catherine, vous pouvez plus rien foutre et donc vous restez chez vous à vous occuper d'abord à vivre votre grossesse et après à vous occuper des enfants. Et les résultats, c'est que vous n'êtes pas représenté, par exemple, au gouvernement ou dans les institutions de pouvoir, et que donc vous êtes tenu à l'écart de la marge du monde. C'est pas de votre faute, c'est parce que vous êtes une maman, quoi. Et donc là, ça, c'est un système qui est mis à mal sur cette planète, et c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, ça arrive même au meilleur, même le roi peut tomber, effectivement, enceint, et chacun son tour, et il est, je veux dire, lui aussi, handicapé physiquement par cette grossesse, et oui, il y a des choses qu'il ne peut plus faire, et donc, on prend acte de ça, simplement, c'est plus quelque chose qui est réservé à un sexe, ça concerne absolument tout le monde, puisque, je ne sais pas si on l'a précisé ou pas, mais ce sexe qui vous est assigné pendant un certain temps, bon, il peut changer, vous pouvez être un jour une femme, le lendemain un homme, vous allez être enceinte, vous allez mettre quelqu'un enceinte, voilà.
Oui, mais l'aspect masculin de la chose est aussi assez hilarant, parce que ce qui choque beaucoup les habitants de Nivose quand Jeanne Lehaye décrit sa planète, c'est qu'ils imaginent, ils se disent mais comment faites-vous pour aller toute l'année avec comme ça un sexe turgescent entre les jambes, ça doit être extrêmement désagréable, et ce qui aussi donne lieu comme ça à des scènes assez hilarantes de déplacer le regard en fait et de regarder aussi notre société. Et la questionner à des endroits où on s'était pas trop posé la question, en fait, de ce naturel du genre, Stéphanie Nico.
Mais justement, si je prends un tout petit exemple sur le personnage de Jeanne Lehaye, pour redire un peu quel personnage c'est au départ, il dit qu'en gros, comme ils sont quand même très, très féminins, voire efféminés, on voit bien qu'aussi de l'homophobie, quelque part, par rapport à la société de l'époque, hein, chez Jeanne Lehaye, et à un moment donné, il dit, ils font pas la guerre, pas vraiment des hommes, et ils se comportaient à cet égard comme des animaux ou comme des femmes. Donc c'est quand même pour situer l'ampleur. Là, on est quand même clairement dans le masculinisme délirant. Et il va évoluer. Hein. C'est aussi tout l'intérêt du roman. Ça va être un chemin de croix pour lui, clairement. Parce que comme il comprend rien à cette société qui est tellement différente de la sienne, il va se tromper sur quasi tout. Et ça va lui valoir beaucoup d'ennuis.
Oui, il faut dire qu'il n'est pas très malin, entre nous soit dit. C'est un peu, moi, c'est le principe aussi de ces récits d'exploration. On pourrait être chez Montesquieu, c'est un peu le côté... il faut envoyer quand même un Candide pour nous montrer les différents aspects de ce monde. Et celui-là, effectivement, n'est pas très très malin.
C'est un homme ordinaire de son époque.
Oui, sans doute. On va entendre un deuxième extrait de La main gauche de la nuit, toujours lu par Élodie Hubert.
Le cycle sexuel est en moyenne de 26 à 28 jours. Ils tendent à parler de 26 jours pour le rapprocher du cycle lunaire. Pendant 21 ou 22 jours, le sujet est soma, en état de latence, d'inactivité sexuelle. La seconde phase du kéma, durant laquelle se produit cette activation sexuelle, dure apparemment entre 2 et 20 heures. Si l'un des partenaires se trouve déjà à un stade avancé du kéma, l'autre ne tardera pas à l'y rejoindre. Si les deux sujets entrent ensemble en kéma, il y a des chances pour que cela prenne plus de temps. Les individus normaux n'ont de prédisposition ni au masculin ni au féminin. Ils ne savent jamais quel rôle ils vont jouer et n'ont aucun moyen de choisir. D'après Otinim, l'usage de dérivés hormonaux dans le dessein de privilégier l'un ou l'autre rôle s'avère très courant dans la région de l'Orgoraine. À ma connaissance, cette pratique n'a pas cours en Caraïbes, une contrée bien plus rurale. Une fois déterminé, le sexe ne peut pas changer pendant la période du kéma. Sa phase culminante dure de 2 à 5 jours, pendant lesquels la pulsion sexuelle atteint son intensité maximale. Le kéma se termine brusquement.
Le kéma se termine brusquement. Bon, on va voir voilà, l'explication presque scientifique par Jeanne Lehaye de ces questions du soma et du kéma. Ce qui est fascinant, c'est aussi le choix des noms. C'est-à-dire qu'elle a une richesse et une facilité. Bon, ça, c'est peut-être un peu le propre, on va dire, de ces auteurs et autrices qui fabriquent des univers entiers, puisque là, on est quand même dans une partie d'un cycle immense, qui est ce cycle de l'œcumène, qui est un festival de noms inventés, de planètes. Et toujours, ces mots sont à la fois évoque toujours quelque chose pour nous et ont parfois des rapports avec nos langues. Par exemple, le soma, ce moment où justement le corps n'est pas sexué. Ça vous fait penser aussi, évidemment, aux cellules somatiques et à cet ensemble du corps sans sexe, finalement, de toutes nos cellules qui ne sont pas sexuées. Le kéma, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Stéphanie Nico de...
Non plus, je dois dire.
Même si on sanskrit, je crois que ça veut dire le bonheur, tout simplement, mais ou le fait d'être protégé de tout danger. Il y a cette capacité d'invention. Est-ce qu'on sait comment elle travaillait, Catherine Dufour, Ursula Le Guin?
Ah non, là, j'ai malheureusement pas de lumière là-dessus, mais je voulais quand même revenir sur le fait que cette femme avait quoi, 50 ans d'avance? Parce que c'est pas le tout d'avoir des gens qui sont comme ça, sans genre, puis genrés, puis à nouveau dénués de genre. C'est que derrière, elle dit... Ben, y a pas de guerre sur cette planète, tout simplement parce que c'est de la binarité de genre que vient le viol et la guerre. Et donc elle décrypte la structure systémique de la culture du viol 50 ans avant qu'on invente l'expression, il me semble. Et c'est plein de choses absolument étonnantes chez Le Guin. C'est cette capacité à avoir 50 ans d'avance. Je crois qu'elle est morte sans même savoir que... Si, elle a peut-être su qu'elle était géniale. Je ne sais pas.
Ah, si, quand même. Je crois que tout le monde lui disait.
Mais je ne sais pas du tout comment elle travaillait. Ça,
elle est morte très âgée, hein, ouais, en tout cas. Ouais. Donc, elle a eu tout à fait le temps de se rendre compte qu'elle était absolument géniale. On regrette qu'une chose, c'est qu'elle n'ait pas eu le prix Nobel qu'elle aurait
parlé.
Dû avoir.
Ouais, ouais, ouais.
Je ne sais pas si on en a parlé.
Elle était sur les listes.
Elle était sur les listes de temps en temps. Ouais.
Ici, ouais.
Cette question du genre qui est quand même centrale, on a l'impression qu'elle l'explore un peu comme le faisait Borges dans ses nouvelles de façon beaucoup plus courte, où on dit, bon, ceci est possible, voilà, telle réalité, l'homme est immortel, là, l'être humain est à la fois homme et femme une semaine par an. Et quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur la société, Fabrice Collin?
Oui, bah alors c'est ce qui fait toute la force du livre, hein, on l'a dit. Bon, on parlait tout à l'heure, vous posiez la question à Catherine Dufour de la du monde lui-même qui est d'abord c'est un monde glacé, il s'y passe pas grand-chose et le niveau technologique, la civilisation, etc. Tout ça c'est assez peu exploré. On a l'impression d'être un peu, je sais pas, dans un monde de SF au rabais, quoi, comme si les décors avaient pas été terminés. C'est vraiment pas ce qui l'intéresse. Et quand moi je parlais du sense of wonder que j'éprouvais à la lecture de cet ouvrage, il est d'une nature quand même très particulière parce qu'elle est quasiment uniquement intellectuelle au sens où elle nous interroge, elle ne cesse de nous questionner. C'est pas le tout de dire bah ici c'est comme ça, on change de sexe, puis après on rechange de sexe, etc. Mais il faut l'intégrer ça en tant que lecteur et on l'intègre en même temps, on l'a dit, que le personnage. Et pourtant, ce que soulignait aussi avec justesse Stéphanie, c'est que c'est jamais compliqué. On n'a pas l'impression du tout de lire un ouvrage de sociologie. On n'a surtout pas l'impression de lire un roman à thèse. Ce sont des choses qui passent et qui infusent naturellement.
Écoutons toujours Ursula Le Guin, mais cette fois-ci un autre aspect de son talent en musique. entendre un extrait intitulé River Song, mis en musique par Todd Barton de La Vallée de l'Éternel Retour, dans lequel Ursula Le Guin raconte l'histoire des Kesh, une tribu vivant 500 ans dans le futur sur la côte pacifique de l'actuelle Californie. Ce livre d'anticipation se compose de récits à la première personne, de poèmes, de recettes de cuisine, de dessins, d'instruments de musique, de croquis cartographiques et même d'un lexique de la langue Kesh. Et donc ces musiques sont la réalisation musicale de ce que les Kesh entendent par musique. Une volonté totale, en fait, de se plonger dans un monde, Stéphanie Nicolas.
Oui, oui, mais ça, c'est justement sa grande force. Hein. On le voit dans le roman dont on parle, La main gauche de la nuit. C'est aussi un roman d'aventure. Il faudrait pas qu'on s'y trompe, parce que même si les questions de genre et la façon dont elle pose ses problèmes de façon passionnante au travers du roman, évidemment, sont au cœur du livre. Néanmoins, c'est aussi un très beau livre avec des descriptions absolument magnifiques. Je pense à un passage du livre, je ne peux pas trop en révéler pour ceux qui auront le bonheur de découvrir le roman d'Ursula Le Guin, mais il y a toute une aventure qu'on pourrait presque imaginer comme une exploration polaire, parce que n'oublions pas que c'est une planète glacée qu'elle imagine, et c'est aussi un grand moment dans les rapports humains entre les personnages. Voilà, on en a moins parlé, mais c'est aussi quelque chose qui est une force du roman. Et évidemment, elle a une capacité d'imaginer des sociétés. Dans un autre roman, le nom du monde est Forêt, qui est un roman écologiste avant l'heure, mais qui est aussi un roman anticolonialiste. Donc, elle est capable d'aborder toutes ces questions, et là, évidemment, c'est une allusion claire au problème des natifs américains, puisque, évidemment, elle est aussi très sensible à la façon dont son pays, les États-Unis, ont maltraité les premiers habitants de ce monde.
Catherine Dufour.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphanie. À un moment, elle traverse donc cette espèce de calotte glaciaire qui s'appelle le Gobrine. Le lecteur en sort avec des engelures. C'est quand même une grande, grande conteuse. Hein. Et elle essaye aussi de nous enfoncer petit à petit dans cette sensation qu'on touche à un monde très, très différent du nôtre, même si de l'extérieur, on a un petit peu l'impression qu'on est juste en Laponie. C'est notamment, elle cite pas mal de légendes du cru, et ce sont des légendes non genrées, donc c'est comme chez nous quoi, il y a des princesses, il y a des princes, il y a des trésors, il y a des nains jaunes sous la pluie, mais ça manque d'histoires d'amour genrées qui finissent bien, c'est très subtil.
Il y a aussi un passage sur l'amitié, là. On a parlé de ce passage qu'on peut pas révéler. Bon. Il se passe des choses entre deux personnages. Quand on commence à lire le roman, de par sa, on va dire, sa candeur et puis sa distance, c'est vrai que ce personnage de Zhen Liai, paraît assez, éloigné des autres parce que vraiment, il les comprend pas. Et le fait qu'il apprenne chemin faisant, c'est qu'à le dire, à les comprendre, va, le rapprocher de ces personnages et nous rapprocher aussi, nous, lecteurs, c'est aussi une des beautés du roman, de ces personnages, de cette société, de cette civilisation qu'on comprend de mieux en mieux. Et en lui, il y a des résistances et des barrières qui tombent au fur et à mesure. Il est dans un moment de dénuement physique. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais ça se passe pas très bien pour lui. C'est compliqué. Et c'est dans ces périodes-là que finalement les écailles de ses yeux tombent et qu'il voit les choses vraiment différemment et qu'on entre réellement dans ce monde avec lui.
Oui, mais alors cette métamorphose dure à peu près tout le temps du roman, et c'est pour ça ce que vous disiez sans doute, Stéphanie Nico, au début, que on sait quand on referme le livre qu'au moment où il écrit, il a vécu justement toute cette aventure, ces aventures au pluriel sur la planète, y compris, on va dire, une histoire d'amitié complexe, dont on ne révélera pas forcément les tenants et aboutissants. Et ce qui est absolument fascinant, et alors ça c'est peut-être le côté qui rassemble aussi plusieurs auteurs, c'est que on vient d'entendre cette musique autour des Kesh, mais elle s'intéresse à ces peuples d'une façon extrêmement précise, et elle donne par exemple à la fin de La main gauche de la nuit une notice assez fascinante sur le calendrier guéténien, qui est plein de noms inventés, enfin sans doute transformés, imaginés, et où on nous explique, bien sûr, à travers ce calendrier, une partie de l'histoire et de comment est-ce qu'on compte le temps dans ces pays. Et alors ça donne des phrases comme « En Caraïbes comme en Orgoyenne, les années ne sont pas décomptées jusqu'au présent à partir d'une année de base. L'année de base est l'année en cours. À chaque nouvel an, Gethen Itern, l'année écoulée devient l'année moins une. Et chaque date du passé se voit ajouter une unité. J'adore ces renversements extrêmement poétiques, presque pérecquiens, d'une nouvelle façon de compter le temps, Stéphanie.
C'est à la fois de l'imaginaire total et c'est à la fois des effets de réel. Comme savent faire les meilleurs auteurs et autrices de science-fiction, c'est justement alors qu'on nous entraîne, il faut une sorte de suspension de l'incrédulité, on nous entraîne très loin, là, on est sur cette planète incroyable, avec ces personnages incroyables, et avec ces petites notations, ça nous donne en effet des effets de réel, et ça, je trouve que c'est aussi une grande force des meilleurs romans de science-fiction.
Catherine Dufour.
Oui, oui, une grande force des meilleurs romans de science-fiction du jour où les femmes s'en sont mêlées, je crois que là on l'a tous et toutes dit, c'est qu'il y a une grande histoire d'amitié. En fait, il y a de l'affectif et c'était pas si courant à l'époque dans les livres de science-fiction. On en a parlé au tout début. Van Vogt, je l'aime, je l'adore, je le piédestalise. Mais enfin, ces personnages, on a un petit peu l'impression de voir un PC qui se dispute avec un Mac. Permettez-moi de vous dire que l'investissement affectif est super limité. C'est ce que disait Stéphanie en disant que c'était des héros en carton. Et là, enfin, Le Guin va faire... Alors, il y en a qui disent qu'elle a fait rentrer les sciences humaines dans la science-fiction. Il y en a d'autres qui disent qu'elle a amené la science-fiction à la maturité. C'est que tout d'un coup, on est passé d'un débat technologique à des débats beaucoup plus humains. Elle a vraiment franchi un palier.
Fabrice Collin.
Il y a aussi ce qu'on n'a pas évoqué, la présence de deux systèmes religieux, on va dire, qui s'opposent. Un qui a visiblement plus sa sympathie, qui se rapprocherait d'une espèce de taoïsme, on va dire, et puis l'autre qui serait plus une religion monothéiste. Et ça aussi, ça nous est... amené avec pas mal de détails. Ce qui est fascinant chez elle, c'est qu'il y a un certain nombre de pans du monde qui sont complètement passés sous silence. On n'arrive même pas très bien à savoir à quel niveau technologique ces peuples se situent. Et puis tout à coup, on va nous donner des renseignements extrêmement précis et par des personnages secondaires, enfin des livres, des chapitres entiers rédigés par des spécialistes de telle ou telle question, on a des point de vue extrêmement affûté sur telle ou telle thématique et comme on l'a entendu là dans les passages qui ont été lus, on sait tout ce qu'on doit savoir.
Oui, exactement. On sait tout ce qu'on doit savoir, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on est plongé dans ce monde, on le découvre petit à petit, comme si on vous ouvrait un peu des rideaux et on comprend toute sa complexité. Mais la grande force, je pense, d'Ursula Le Guin, c'est qu'on vous assomme pas quelque chose. Il n'y a pas d'injonction à croire. Non, on vous y amène par petits bouts. Et puis, bon, si vous adhérez, vous adhérez, vous y croyez pas. On se retrouve un peu comme les personnages eux-mêmes du livre face à ce qu'ils ne comprennent pas ou n'admettent pas. Et c'est pour ça que Genliai est aussi extrêmement important, puisque c'est à travers lui qu'on va pouvoir faire l'expérience même de l'incompréhension, finalement, de ce qu'on a sous les yeux, Stéphanie Nico.
Et oui, et puis, y compris, alors là encore, on ne peut pas révéler, parce que sinon, ce serait dommage pour les nouveaux lecteurs du roman, mais il y a des, un peu comme j'ai dit, qu'il y a des rapports minoritaires aussi, qu'on verra au cours du livre, où des personnages d'autres explorateurs, parce qu'il n'est pas le premier à venir sur la planète, ont repéré des choses qui leur tombaient sous le sens et que lui n'a pas vu. Et ce qui est amusant, c'est que l'autre envoyée terrienne, ben je l'ai dit, elle est terrienne. Mais bon, j'en dis pas plus. Vous verrez, là aussi, on peut ne pas y faire très attention. Et en fait, c'est toute l'ironie. S'il avait lu un peu plus, s'il avait eu moins de préjugés sexistes, il se serait évité bien des souffrances. Parce que ce pauvre garçon, pour s'améliorer, il va manquer de mourir, il va avoir de graves ennuis. Et franchement, j'aimerais pas passer par là pour quelques missions que ce soit.
Il va avoir très très froid.
Très très
là.
Froid et très
oui,
très peur.
Oui, comme vous l'avez dit, c'est un système aussi, ce roman, qui propose une sorte de modèle, c'est même plus vaste qu'une société, c'est vraiment une façon d'être à la vie. Et en même temps, on n'est pas plongé dans un optimisme béat, c'est pas une utopie complètement riante, parce qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Il y a des gens qui sont pas sympas malgré tout et il y a des personnages qui sont en grande difficulté, on va pas en dire plus, mais qui ont à subir des décisions qui paraissent complètement iniques. Donc c'est un système aussi qui est assez raté. Donc Ursula Le Guin nous dit pas c'est comme ça que ça devrait être, mais voilà un autre système, il y a des trucs qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas, vous en tirez les enseignements que vous voulez.
Il y a quand même un côté un petit peu palimpseste, parce que bon, le premier pays qu'elle visite, que Genliai nous fait visiter, c'est la Caraïde, qui est dirigée par le roi Argaven. ou qui passe son temps d'un bout à l'autre du livre à ronchonner en donnant des coups de pied dans des bûches enflammées. Mais après, il va à côté en Orgoraine. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est pas un royaume, c'est pas un peu communiste comme organisation.
Ah bah c'est très bureaucratique en tout cas, parce que c'est justement.
Et c'est pas la montagne du fun, quoi, non plus. C'est pas. C'est, voilà, elle propose pas une solution, une utopie clé en main du tout.
Mais c'est justement l'aspect politique, en tout cas de satire. Ça tire dans le meilleur sens du
terme. Un palimpseste des USA. Ouais, ouais.
Du livre qui est peut-être le plus aussi, qui rajoute encore une couche de passionnant à ce roman, Stéphanie Nicot.
Oui, on n'est pas dans le simplisme avec Ursula Le Guin, jamais. Il n'y a pas le bien et le mal manichéen. Il y a des choses qui visiblement posent problème. Elle nous le fait sentir par ses personnages et son histoire. Mais c'est pas, comme viennent de l'expliquer nos autres intervenants, c'est pas non plus un monde parfait, c'est pas un monde idéal. Elle nous donne pas, en effet, de solutions clés en main. C'est pas une utopiste. Pas ce sens-là. Elle laissait, par ses romans, elle nous montre peut-être comment marcher vers un meilleur, mais elle nous donne pas de solutions clés en main. C'est pas une propagandiste, Ursula Le Guin. On sait ce qu'elle n'aime pas, on le sent, mais toujours au travers du récit. Et c'est en ça que c'est avant tout une très grande autrice.
Écoutons un troisième extrait de La main gauche de la nuit, lu par Élodie Hubert.
Quelques réflexions. N'importe qui peut s'essayer à n'importe quelle activité. Cela n'a l'air de rien, mais les effets psychologiques en sont incalculables. Le fait que chaque individu, de 17 ans jusque vers 35, soit susceptible, pour reprendre l'expression de Nîmes, d'être tourmenté par une grossesse, a pour conséquence que personne ici ne peut être tourmenté aussi radicalement que les femmes risquent de l'être ailleurs, psychiquement ou physiquement. Servitude et privilèges sont répartis assez équitablement. Chacun a le même risque à courir ou le même choix à faire. Et pourtant, personne ici n'est tout à fait aussi libre que l'est un homme libre partout ailleurs. L'enfant n'a pas de relation psychosexuelle avec son père et sa mère. Le complexe d'Édipe n'existe pas sur Nivose. Pas de sexe non consenti, pas de viol. Comme chez la plupart des mammifères, à l'exception de l'homme, il ne peut y avoir copulation que sur invitation et par consentement mutuel, sans quoi le coït s'avère irréalisable. La séduction reste possible, bien sûr, à condition de choisir précisément le bon moment. Pas de division de l'humanité en fort et faible, protecteur et protégé, être dominateur et créature soumise, maître et esclave, élément actif et passif. Toute cette tendance au dualisme qui imprègne la pensée humaine, il est fort possible qu'elle se trouve atténuée ou modifiée sur Nivose.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Pas une utopiste, néanmoins quand même voilà, des éléments pour une possible utopie, Stéphanie Nicot.
Oui, c'est ça, elle nous donne des pistes, elle nous donne des éléments de réflexion par ses personnages, par ses histoires, par ses romans, par la critique sociale, par la critique du sexisme, mais tout ça se fait toujours avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, c'est caustique, il y a plein d'humour, parfois de l'humour noir, vraiment, mais on a quelqu'un qui nous donne plein de pistes, en fait, plein de pistes de réflexion pour peut-être un jour améliorer nos sociétés, si tant est que la littérature ait cet objectif.
Mais néanmoins, Catherine Dufour, ce qu'on entend là, enfin, quand on lit La main gauche de la nuit, c'est que c'est loin d'être un paradis quand même, malgré tout. Hein, et il y a quand même de la violence politique, c'est-à-dire que ça ne résout pas tout. Elle n'est pas pour autant angéliste, elle ne pense pas que le seul problème de l'humanité soit le genre.
Exactement, elle dit que finalement ce qu'on trouve sur Gétène, c'est des êtres humains et que ces êtres humains sont aussi mauvais là que partout ailleurs. Bien sûr, il y a énormément de coups fourrés politiques. Ce qu'il n'y a pas, c'est des grandes déflagrations sanglantes auxquelles nous sommes accoutumés et qui sont, je dirais, un débordement de la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Il y a aussi quand même quelques pics, à mon avis. Le Guin, comme le disait très bien Stéphanie, elle s'amuse aussi beaucoup. Et notamment, elle explique que grâce à cette non-binarité, les parents aiment toujours autant leurs enfants, mais qui ne font pas preuve de cette possessivité démentielle qu'on constate sur Terre. Quelquefois, elle se venge un peu, je pense.
Fabrice Collin.
Il y a un autre point qui est assez marrant dans le livre, c'est il y a un groupe d'individus qui est capable de prédire plus ou moins l'avenir, à qui on peut poser des questions, et en fait ça ne résout rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent immanquablement les bonnes réponses, mais très souvent les gens ne posent pas les bonnes questions. pose des questions qui sont mal formulées. Ça ressemble un peu au débat encore 50 ans ou 60 ans d'avant sur les intelligences artificielles aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut essayer de bien formuler les questions si on veut avoir une réponse qui serve à quelque chose. Et même les personnages de cette planète en sont souvent incapables.
Elle écrit, Ursula Le Guin, à la fin de La main gauche de la nuit, pour revenir à cet aspect politique du livre. En Caraïbes, la chute d'un gouvernement se manifeste généralement par la disgrâce et le remplacement du Premier ministre, en même temps qu'un remaniement de la Khéorémie. Mais il existe des variantes. Assassinat, abdication, insurrection, dont les exemples ne sont pas rares. Comme quoi...
Les mondes parfaits n'existent pas, même chez Ursula Le Guin.
Oui, elle dit que son héros rencontre un type parfait d'homme politique et elle dit « J'en ai rencontré sur toutes les planètes et je m'attends à en rencontrer même en enfer. » Des êtres humains peuvent changer et résister à n'importe quel pouvoir humain. La résistance et le changement commencent souvent dans l'art, et très fréquemment dans notre art, l'art des mots. J'ai eu une longue et belle carrière en bonne compagnie. Aujourd'hui, qu'elle touche à sa fin, je ne veux vraiment pas voir la littérature américaine se faire trahir. Nous qui vivons de l'écriture et de l'édition, voulons et devrions exiger notre part équitable des recettes. Mais le nom de notre belle récompense, ce n'est pas le profit. Son nom, c'est la liberté. Je vous remercie.
Nous venons d'entendre le discours d'Ursula Le Guin au moment de la remise du National Book Medal, pardon, pour l'ensemble de son œuvre en 2014, à l'occasion d'une émission de la méthode scientifique sur France Culture que Nicolas Martin avait consacrée à Ursula Le Guin en 2018. Liberté et littérature de combat. C'est pas quelque chose qu'on s'attend forcément de la part d'un auteur de science-fiction, finalement. C'est pas l'image qu'on en a, en tout cas.
La science-fiction a changé, enfin, déjà, alors. C'était pas un grand féministe, certes, mais Philip K. Dick a quand même à la fois posé une interrogation sur qu'est-ce qu'un être humain et puis aussi sur les systèmes oppressifs. La science-fiction, alors elle est comme toute littérature, elle est très diverse, y compris idéologiquement, mais il y a quand même toute une génération d'auteurs et d'autrices qui ont modifié profondément le genre, et y compris, il y a non pas des héritières de Le Guin, mais Le Guin, y compris à la fin de sa vie, quand elle était octogénaire, elle était encore d'une vivacité, d'une modernité, d'une incroyable ouverture d'esprit, et elle accompagnait la nouvelle génération d'auteurs, et en particulier d'autrices, aux États-Unis. Je pense, entre autres, à certaines autrices de la communauté transgenre, qu'elle a soutenues complètement. Cette féministe n'était tout sauf une féministe aigrie en fin de vie, c'était une féministe à l'écoute à la fois de l'humanité en général et puis de tous les nouveaux courants de libération qu'elle pouvait entendre. C'est une merveilleuse autrice et c'est une merveilleuse personne, Ursula Le Guin.
Catherine Dufort.
Oui, moi je voulais juste faire une toute petite citation hein, en vous rappelant que le GIEC a été fondé en 88 et que ça a été écrit en 69. Et Le Guin parle de la planète Jed. Une civilisation dilapidatrice a détruit ses équilibres naturels il y a 50 ou 60 000 ans, brûlant pour ainsi dire les forêts pour en faire du petit bois. Résultat, Jed se résume presque entièrement à un désert de sable et de roc et ressemble à l'idée que se font les Yomeshta de l'endroit où les voleurs se retrouvent après leur mort. À méditer.
Fabrice Collin, sur cet aspect peut-être pas prophétique, mais en tout cas activement politique de la science-fiction.
Bah, c'est sûr que les choses ont changé, mais si on regarde la petite scène française aujourd'hui, la question de la science-fiction politique ou à message, j'aime pas trop ce terme-là, mais elle est très complexe parce que les gens se méfient. On est un pays, je pense, où on n'aime pas les donneurs de leçons, on n'aime pas nous dire comment penser. Il y a des gens qui écrivent des livres qui pourraient aller vers ça. Il y a des gens qui ignorent complètement la question politique. Et entre les deux, il faut quelqu'un de la trempe de Ursula Le Guin pour déployer cette subtilité hein, dont on a parlé pendant toute cette heure, de pouvoir non pas expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser, mais peut-être leur expliquer comment ils peuvent penser mieux, plus efficacement, plus librement, et comment c'est à eux d'inventer aussi des choses, et évidemment pas seulement aux auteurs.
Mais est-ce que c'est pas justement peut-être un des intérêts aussi de la science-fiction que de pouvoir faire table rase de notre réalité pour nous en proposer une autre, Stéphanie? Dans le cadre d'Ursula Le Guin, en tout cas.
Ben, c'est cet écart qui lui permet de avec des dizaines d'années d'avance. C'est ça, un véritable artiste aussi, et là, au-delà du genre, un véritable artiste. Mais c'est vrai que la SF est assez douée pour ça, est capable d'anticiper, c'est le cas de le dire, est capable de donner, oui, elle est en avance et elle sent un petit peu l'air du temps que ne sentent pas toujours ses contemporains. Ce serait parfois bien qu'on les lise et qu'on les écoute un peu plus, mais bon, la littérature naît, et c'est déjà pas mal que la littérature.
Catherine Dufour, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Ursula Le Guin, en tout cas La main gauche de la nuit, est un livre important pour les générations nouvelles, on va dire,
Oui, il faut lire Ursula Le Guin, je crois. J'ai l'impression qu'elle commence à avoir la reconnaissance qu'elle mérite en France, sachant qu'aux États-Unis, ça fait quand même longtemps qu'elle est reconnue comme quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de la science-fiction, mais même dans l'histoire de la pensée humaine qui essaye de se piquer d'anticipation. Et en ce moment, il y a quand même pas mal de gens qui, étant assez angoissés par les catastrophes qui nous arrivent dessus, se tournent justement vers ce type d'œuvre qui a une puissance d'anticipation en espérant y trouver des esquisses de solutions.
Fabrice Collin, est-ce que pour vous, comme auteur, vous n'avez pas beaucoup écrit de science-fiction au sens de voyage interplanétaire, mais néanmoins, est-ce que pour vous, c'est une influence qui compte ?
Plus qu'une influence, c'est disons une sorte de modèle, quoi, de ce que doit, je sais pas, mais de ce que peut être un écrivain de science-fiction. Je pense que le regain d'intérêt qui se manifeste pour son œuvre en France, on peut le voir hein, actuellement, parce que moi j'ai regardé un petit peu qui en parlait là en France sur les blogs, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des études sur, notamment sur ce livre, et j'ai l'impression que depuis sa mort, ouais, il y a un vrai regain d'intérêt pour sa personne. Mais bon, la dimension prophétique de ce livre, même si c'était pas son but, elle est quand même absolument stupéfiante. Hein. Normalement, là, on en est convaincu, ne serait-ce que sur le plan la question du genre, et puis sur d'autres œuvres, la question écologique. Oui, il y a 50, 60 ans d'avance. Mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui creuse d'abord et avant tout la question de l'humain, qui réfléchit, qui essaye de se défaire justement des modes de pensée, des automatismes, des clichés, etc. Et qui creuse son propre sillon, qui, chemin faisant, bah, finit par toucher à des vérités qui nous éclairent en tant que lecteur.
Le mot de la fin, Stéphanie Nicot, pour conclure.
Lisez évidemment La main gauche de la nuit, mais aussi tous les romans, qu'il s'agisse de romans de science-fiction ou de fantasy d'Ursula Le Guin. Et si vous intéressez aux idées de Le Guin, à ses personnages, ben vous regardez aussi tout ce qui a pu être publié récemment chez différents éditeurs. Oui, il y a en effet un regain de l'intérêt pour Ursula Le Guin, pour ses livres, et je pense que c'est plus que mérité.
Merci beaucoup Catherine Dufour, merci Fabrice Collin, merci Stéphanie Nicot de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Amandine Frichoux à la technique aujourd'hui. Merci beaucoup à Aurélie Marsay qui m'a aidé à préparer ces émissions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour les romans qui ont changé le monde. Nous partons pour l'Italie de 1974 avec La Storia d'Elsa Morante. À demain.